pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'Info et Québec Science. Sur les traces du nom Trump au Canada. Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru le 3 septembre 2026 dans les As de l'Info. La semaine dernière, Donald Trump a annoncé qu'il changeait le nom du lac Ontario pour le rebaptiser Lac d'Amérique. Ça a causé beaucoup de colère au Canada. Et certains citoyens aimeraient même que des lieux canadiens qui portent le nom de Trump soient renommés. Parce que oui, il y en a quelques-uns. Allons les visiter. Des Trump parmi nous. En Ontario, on retrouve, entre autres, un lac Trump, une rivière Trump Creek et deux lacs qui se nomment East Trump Lake et West Trump Lake. Dans la province de Terre-Neuve et Labrador, il existe aussi les îles Trump du Nord et du Sud. Au début des années 1900, ces deux petites îles étaient habitées par des pêcheurs et des mineurs. Aujourd'hui, elles sont peu visitées. Ces noms ont été donnés dans les années 1950 et 1970, donc bien avant que Donald Trump ne devienne président des États-Unis. Un ancien lac Trump au Québec. Pendant 14 ans, il y a eu un lac Trump dans la région de l'Outaouais. On ne sait pas pourquoi il portait ce nom, mais on sait que ce n'était pas en l'honneur du président américain. Le lac a en effet reçu ce nom en 1968, alors que Trump était au début de la vingtaine et n'était pas encore célèbre. En 1982, la Commission de toponymie du Québec, l'organisme qui s'occupe des noms officiels des lieux au Québec, a constaté que les habitants l'appelaient plutôt le lac du Porc-Épic. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Quoi qu'il en soit, la commission a décidé de changer le nom du lac. Depuis, le lac du Porc-Épic a complètement fait disparaître le nom Trump des cartes du Québec. Bye-bye, avenue Trump! Par contre, il existe, depuis les années 1990, une avenue Trump à Ottawa qui fait bien référence au président américain. Elle est située dans un quartier où les noms des rues s'inspirent de la ville de New York aux États-Unis. Le nom de Trump avait été choisi car il était, à l'époque, un homme d'affaires new-yorkais et une vedette de télévision. Mais aujourd'hui, les choses pourraient changer. Un conseiller municipal d'Ottawa milite pour renommer l'avenue Trump. Même si ce serait compliqué pour les résidents, qui devraient changer leur adresse sur leur permis de conduire, leur passeport. Le maire d'Ottawa appuie cette idée. Les nouveaux noms proposés? L'avenue du Canada, l'avenue Obama, l'avenue de l'Ontario et l'avenue Taco. Et toi, si tu habitais sur l'avenue Trump, aimerais-tu garder ce nom ou pas? Quel nouveau nom proposerais-tu pour le remplacer? Le secret derrière les effets au soccer. Un texte paru le 23 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. Dans certains sports, l'effet Magnus peut donner à une balle une trajectoire courbe des plus surprenantes. Tu t'es peut-être déjà demandé comment certains joueurs de soccer arrivaient à envoyer le ballon dans les buts avec des trajectoires complètement imprévisibles. Un physicien prussien, Henrik Gustav Magnus, s'est penché sur la question au milieu du 19e siècle et on a donné son nom à ce phénomène. C'est l'effet Magnus. Lorsqu'un joueur frappe le ballon pour produire un tel effet, il lui donne un mouvement de rotation. Mets-toi à la place du ballon. Tu tournes sur toi-même comme une toupie en filant à plus de 100 km/h. Tu entends le vent siffler? C'est le frottement de l'air dont il faut tenir compte. Il y a ainsi deux phénomènes impliqués, la rotation de la balle et l'action de l'air. Il se passe des choses différentes d'un côté et de l'autre du ballon. D'un côté, les frottements de l'air freinent la rotation et il se crée une surpression. De l'autre, l'air contribue à la rotation et la pression devient plus basse. Cette différence de pression de chaque côté du ballon l'aspire sur le côté vers la zone de basse pression et le dévie, imposant une trajectoire en forme de banane. Et c'est le but. Cet effet est cependant très difficile à obtenir. Il faut être assez loin des buts, donner au ballon la bonne vitesse de rotation pour qu'il soit dévié au bon moment, frapper suffisamment haut et fort pour contrer la gravité, mais pas trop non plus pour éviter de passer par-dessus la cage. Mais lorsqu'il est bien exécuté, il peut surprendre la défense et faire entrer un joueur dans la légende. On trouve aussi cet effet Magnus dans d'autres sports comme le tennis ou le baseball. La balle papillon, tu connais? Ces mouvements de balle presque magiques, ce n'est en fait que de la physique et un bon nombre d'heures d'entraînement. C'était « Le secret derrière les effets au soccer », un texte paru le 23 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. Surprise! Des bébés crocodiles naissent naturellement en France à cause de la chaleur. Un texte de Ophélie Delaunay, paru le 3 septembre 2026 dans les As de l'Info. Il y a quelques jours, les employés d'une ferme de reptiles du sud de la France ont eu toute une surprise. Des œufs de crocodile ont éclos naturellement dans un des espaces extérieurs. Pourquoi c'est surprenant? C'est parce que les œufs de ce reptile ne peuvent éclore sans aide humaine que dans des régions très chaudes comme l'Afrique. Prépare-toi, on va croquer à pleines dents dans cette histoire. Où se déroule cette histoire? La ferme aux crocodiles est un parc animalier situé dans le sud-est de la France et qui accueille un grand nombre de visiteurs. Dans ces serres chauffées, on trouve des centaines de reptiles originaires des pays tropicaux. Des crocodiles, des tortues géantes, d'immenses serpents et de très gros lézards. Un croco qui vit au chaud. L'habitat naturel du crocodile du Nil est en Afrique, au sud du désert du Sahara et au sud de l'Égypte. Pour bien se développer, ses œufs ont besoin de conditions spéciales. Ils doivent rester à une température comprise entre 30 et 32 degrés Celsius pendant 3 mois. À la ferme aux crocodiles, des installations ont été conçues pour que les reptiles soient confortables. L'hiver, ils peuvent se réfugier dans une serre chauffée quand il fait trop froid pour eux. En général, l'été, les températures sont assez élevées pour eux, même s'il n'y fait jamais aussi chaud qu'en Afrique. Alors habituellement, quand des crocodiles pondent, des vétérinaires récupèrent les œufs et les placent au chaud dans une couveuse jusqu'à ce qu'ils éclosent. Mais, cette année, surprise! Des œufs bien cachés dans le sable ont éclos sans avoir besoin de la chaleur de la couveuse. Petit croco deviendra grand. À sa naissance, un bébé crocodile du Nil mesure environ 30 cm. Adulte, il peut faire jusqu'à 5 mètres de longueur. C'est l'un des plus grands crocodiles du monde. La canicule en cause. Est-ce que la France est devenue une savane africaine? Non. Mais, comme partout en Europe, Il a fait particulièrement chaud cet été. Il y a eu plusieurs canicules et les températures restaient élevées, même la nuit. Ces conditions sont idéales pour les crocodiles du Nil. Une conséquence des changements climatiques. La naissance naturelle de ces bébés crocodiles en France est étonnante, mais aussi très intéressante. Elle montre une des conséquences des changements climatiques. Les étés sont de plus en plus chauds et longs en Europe. Résultat, des espèces habituées à vivre dans des pays chauds peuvent maintenant vivre dans ces régions plus au nord. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura bientôt des crocodiles dans la nature en France. Mais d'autres espèces du sud, un peu moins frileuses que les crocos, y trouvent un bel habitat où s'installer. C'est le cas de la tortue Cacuan. Ce reptile marin, qui vit dans les eaux assez chaudes de tous les océans, est de plus en plus présente dans le sud de la France. Au Canada aussi, plusieurs animaux déménagent progressivement vers le nord. Aux As, on t'a déjà parlé des castors, de certains moustiques, des tiques, des oiseaux. Toi, quel animal aimerais-tu voir déménager au Québec? L'effet papillon. Quand un détail fait tout basculer. Un texte paru le 22 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. Même l'ordinateur le plus puissant n'arrivera jamais à prédire certains événements sur le long terme. C'est l'effet papillon. Te souviens-tu d'une fin de semaine où la météo prévoyait de la pluie, mais où il a fait un temps radieux? Ou l'inverse? Bien que la technologie fasse chaque jour des progrès fulgurants et que ton cellulaire soit plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune, nous sommes toujours incapables de prévoir la météo plus de 2 ou 3 jours en avance. Pourquoi cela? Le scientifique américain Edward Lawrence a mis le problème sur la table lors d'une conférence en 1972. Le titre de sa présentation est resté dans les mémoires. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Quel rapport avec la météo? Selon son analogie, on aura beau entrer dans une gigantesque équation, tout un tas de paramètres mesurés aujourd'hui et qui pourraient influencer la météo dans quelques jours, force et direction du vent, ensoleillement, humidité. Il y aura toujours un détail infime et surtout imprévisible, comme le battement d'ailes d'un papillon qui crée une perturbation locale, qui en crée une autre, qui s'amplifie, auquel on ne pensera pas et qui pourra changer radicalement le résultat final. On appelle cela l'effet papillon. De petites causes peuvent parfois avoir de grandes conséquences sur le long terme. Il s'applique à plein d'autres phénomènes comme la formation des embouteillages. Attention cependant, l'effet papillon est parfois cité à tort et à travers, notamment par les climato-sceptiques. Ils prétendent par exemple que si la météo est imprévisible, alors il est impossible de dire qu'il y a un réchauffement climatique. Mais la météo et le climat sont deux choses distinctes. Si les variations au jour le jour sont imprévisibles sur le long terme, la tendance générale, elle, est parfaitement mesurable. La planète se réchauffe. De quoi te donner à réfléchir la prochaine fois que la météo te joue des tours. C'était l'effet papillon quand un détail fait tout basculer. Un texte paru le 22 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. découverte d'une nouvelle espèce de singe. Un texte de Camille Lopez, paru le 3 septembre 2026 dans les As de l'Info. Voici Colobus congensis, un petit singe à la bouche orangée. Tu ne le connais pas?
C'est normal.
Des scientifiques ont officiellement découvert cette espèce en juillet dans une forêt tropicale de la République démocratique du Congo. Colobus congensis, ou l'aquili pour les intimes, c'est la cinquième espèce de singe à être découverte en Afrique en 75 ans. Il est tout petit, à la fourrure noire, les lèvres oranges, vit dans les arbres et est très difficile à photographier. Le primate était connu des habitants de 8 villages congolais, mais il n'avait jamais été officiellement reconnu par les scientifiques. Il a été photographié pour la première fois en 2008, mais les images prises à l'époque ne montraient que son dos et une partie de sa queue. En 2018, une photo du même animal a intrigué le biologiste Junior Amboko et son équipe qui ont passé les dernières années à essayer de l'identifier. Sur les traces d'un nouveau singe. Les biologistes ont donc noté toutes les fois où le primate a été aperçu. 114 en 4 ans. Et ont déterminé l'ampleur de son territoire. 1700 km², soit un peu plus de deux fois la ville de Montréal. Ils ont aussi réussi à prélever son ADN pour le comparer à ceux d'autres primates. Et puis, roulement de tambour, l'ADN de cet animal était unique. Le 15 juillet dernier, soit 18 ans après la première photographie du petit animal, Junior Amboko a donc enfin pu annoncer au monde entier qu'il avait vraiment découvert une nouvelle espèce de singe qu'il a nommée Colobus congensis. Deux éléments le distinguent nettement des autres primates. La couleur de sa bouche et une tache blanche sur ses fesses. Déjà en danger? Selon les biologistes à l'origine de cette découverte, cette espèce est déjà menacée puisque la forêt où Colobus congensis habite est en train d'être détruite par les humains. Ils recommandent que des mesures soient prises pour protéger le petit singe. Et toi, quel est le dernier animal que tu as vu en nature? Un poisson dans l'arrière-train. Un texte paru le 20 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. Certains poissons ne sont pas difficiles en termes d'habitat. Ils habitent les cavités respiratoires des concombres de mer. Comment s'y rendent-ils? Disons qu'ils empruntent la porte arrière. Tu as bien lu. Mesurant 10 cm en moyenne, de petits poissons de la famille des carapidés s'installent dans les concombres de mer ou holothuries en passant par leur anus. Il faut préciser que, chez le concombre de mer, cet orifice sert aussi à la respiration, même si cela ne rend pas la chose plus glamour. Les concombres de mer vivent comme ça, avec la tête d'un petit poisson qui leur sort du postérieur. La plupart du temps, le poisson ne fait pas de tort à son hôte. Il utilise l'intérieur du concombre pour se protéger des prédateurs et en sort pour se nourrir. On parle alors de commensalisme. La relation poisson-concombre est favorable au premier, mais neutre pour le second. Sauf lorsque le poisson décide de se nourrir des organes reproducteurs du concombre. Là, la relation devient parasitique. Le concombre, dans tout ça, n'a pas son mot à dire. il ne peut pas interdire l'accès indéfiniment en serrant les fesses. Cela reviendrait à retenir sa respiration, pas très pratique sur le long terme. Et comme ils ne peuvent pas vraiment se sauver activement, certains concombres ont développé une alternative assez drastique. Ils expulsent leurs intestins à l'extérieur du corps et les locataires clandestins par la même occasion. D'autres produisent du poison. Malheureusement, le poisson produit un mucus qui fait d'une pierre deux coups. Il le protège des toxines tout en facilitant l'entrée et la sortie du poisson dans le concombre. Leur goût, discutable en matière de résidence, n'est pas la seule bizarrerie chez ces poissons. Pour rester dans le même thème, savais-tu que leur propre anus se situe juste derrière leur tête, à peu près au niveau de leur gorge? De cette façon, ils peuvent facilement faire leurs besoins à l'extérieur juste en sortant la tête, sans ruiner la salubrité de leur intérieur. Le tout en gardant un œil sur les éventuels prédateurs. Alors, content de ne pas être un concombre de mer? C'était « Un poisson dans l'arrière-train », un texte paru le 20 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. Dans l'univers tout en poids de Yayoi Kusama. Un texte de Anouchka Debionne paru le 1er septembre 2026 dans les As de l'Info. Une grande peintre et sculptrice japonaise est décédée le 14 août à l'âge de 97 ans. Yayoi Kusama était connue dans le monde entier pour son art très coloré et parsemé de poids. Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées de la planète. Viens découvrir le merveilleux univers de Yayoi Kusama. Des hallucinations depuis l'enfance. Les œuvres de Yayoi Kusama représentent très souvent des poids. C'est même une obsession. Mais pourquoi? À l'âge de 10 ans, Yayoi s'est mise à avoir des hallucinations qui ont duré toute sa vie. De temps en temps, elle entendait les plantes parler et elle avait l'impression qu'une multitude de pois envahissait tout ce qui était autour d'elle. Très jeune, elle a commencé à dessiner ses visions et ce motif a inspiré tout son univers artistique. « Ma vie est un petit pois perdu parmi des millions d'autres petits pois », a écrit l'artiste en 1960 pour expliquer son style de peinture. Des pois, même quand elle n'a pas le droit. En 1966, un grand festival d'art se tient à Venise, en Italie. Yayoi Kusama n'a pas été invitée, mais elle se rend sur place quand même et installe 1500 boules miroirs dans le jardin du musée. Elle les vend même aux visiteurs pour 2 $ afin de se moquer du marché de l'art. Cette action audacieuse la rendra célèbre sur la scène internationale, mais il faudra attendre 30 ans avant que le festival l'invite officiellement. Bouquet de tentacules et de pois. Yayoi Kusama a créé des œuvres à pois monumentales qu'elle a exposées dans les plus grands musées d'art contemporain du monde. Des tentacules gonflables étaient exposés au musée d'art de Tel Aviv en Israël en 2021. Ils étaient si hauts qu'ils touchaient le plafond. Les visiteurs pouvaient se promener parmi eux comme dans une forêt. Yayoi a appelé cette installation « Un bouquet d'amour que j'ai vu dans l'univers. »« A bouquet of love I saw in the universe. » Une autre œuvre s'appelle Infinity Mirrored Room, ce qui veut dire « salle miroitante à l'infini ». Des miroirs créent l'illusion que la pièce n'a pas de mur. Cette installation était exposée en mars 2026 au musée Ludwig de Cologne, en Allemagne. La citrouille à picot noir. C'était l'une des œuvres les plus connues de Yayoi Kusama. Une citrouille de 2 mètres de haut, ce fruit géant, était installée sur un quai de l'île Naoshima au Japon. Pourquoi une citrouille? La famille de Yayoi en cultivait. La statue a survécu à plusieurs tempêtes depuis 1994. Le musée de Yayoi Kusama. En 2017, à l'âge de 85 ans, Yayoi Kusama ouvre son propre musée à Tokyo, au Japon. Elle y expose plus de 600 œuvres. Rencontre avec la mode. Yayoi Kusama a inspiré la luxueuse marque Louis Vuitton, qui a créé 2 collections de sacs et de souliers en son honneur, une en 2012 et une en 2023. Inspiration ou plagiat? L'univers coloré de Yayoi Kusama a inspiré de grands artistes du mouvement pop art, comme le très célèbre peintre américain Andy Warhol. As-tu déjà vu le tableau qu'il a peint de l'actrice Marilyn Monroe? Mais Yayoi Kusama a accusé Andy Warhol d'avoir copié ses motifs de répétition. Et toi, quel motif reproduirais-tu à l'infini si tu étais artiste?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.